Je suis la femme de toutes les batailles, la sœur, la fille, la mère de tous les millénaires. Être une femme, femme feu de forêt, qui jamais ne s'éteint, qui jamais ne s'éteint, qui jamais ne s'éteint, qui jamais ne s'éteint. Qui
Cette semaine, je vous propose de partir en immersion dans les profondeurs d'un son brut, dense et façonné à coups de machine et de liberté. Cet univers, c'est celui de Grey Okuma, également connu sous le nom de Grey Live, et c'est un producteur techno, un performeur intransigeant et cofondateur du label Okuma, véritable laboratoire sonore où la techno se pense autant qu'elle se vit. Depuis ses débuts dans les free parties jusqu'à ses lives explosifs en warehouse, Grey Okuma a bâti un univers qui ne triche pas, puisque son son est à la fois percussif, mental et organique, et chaque kick raconte un instant de transe collective. Grey Okuma se produisait à Châteauroux, au 9 Cubes, lors de la soirée Underground Techno 5 organisée par l'association La Lichounerie. Ça a été l'occasion pour moi d'aller à la rencontre de ce musicien et de vous proposer cette semaine cette interview long format où l'on prendra le temps d'explorer son parcours, son processus de création, sa vision du mouvement free et de la scène actuelle. Et actualité oblige, cette interview aborde également le projet de loi qui vise à interdire les free parties, un sujet qui résonne fort chez beaucoup d'acteurs de la scène. Tout au long de l'émission, cette discussion sera ponctuée d'une sélection de ses propres morceaux, histoire d'entrer pleinement dans son univers, directement branché sur le son Grey Okuma. On va justement débuter avec Manifest, c'est l'un de ses derniers morceaux, ça dure pas loin d'un quart d'heure. Bienvenue à vous dans cette émission spéciale autour de Grey Okuma.
Thank you. encore. Academy, le mag, l'interview.
Vous venez de vivre 12 minutes de son tribe avec ce manifeste morceau de Greu Kuma, artiste à l'honneur cette semaine dans DJ Academy, dont voici dès maintenant la première partie de l'interview, une séquence enregistrée à Châteauroux le 14 mars 2026 dans le cadre de la soirée Underground Techno 5, soirée organisée par l'association Berrichonne La Lichounerie. Bonsoir à toi.
Bonsoir, salut tout le monde.
Comment vas-tu ?
Écoute, ça va pas mal, je trouve la salle super chouette, l'équipe est super chouette, le club a vraiment de la gueule avec le camion, la scène Mercedes là, c'est vraiment stylé.
C'est ta première venue dans le Berry ?
Oui, je crois, ouais.
Tu es originaire de Besançon,
oui.
Une ville avec une scène alternative bien vivante. Toi, comment est-ce que tu racontes ta rencontre avec la techno et la free party pour quelqu'un qui ne te connaît pas encore ?
Donc ça s'est passé au tout début des années 2000, même déjà quand j'étais au lycée, avant même d'aller de faire des teufs, il y avait un disquaire à deux pas du lycée, et c'est là que j'ai écouté mes premiers disques, quoi. Donc plus du hardcore. Manu le Malin, Micropointe, tous ces trucs-là qui avaient bien le vent en poupe à l'époque. Et en fait, ma découverte de la techno, ça a été vraiment ça. Et puis après, un album CD de Crystal Distortion qui m'a vraiment scotché et qui m'a donné, enfin, même avant ça, j'avais envie de découvrir. Il y avait vraiment une aura autour des fêtes techno. Ça donnait envie. On avait envie d'aller, on avait envie de découvrir, de voir ce que c'était, de vivre le truc, quoi. Ça avait l'air d'être une expérience assez folle.
Aujourd'hui, en 2026, tu cumules les casquettes. Tu es producteur, live performer, DJ. Tu es co-fondateur du label Okuma Records.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est quoi ton métier principal dans la tête ?
C'est quand même principalement la composition et le live performing. Je sais pas si on dit comme ça, mais c'est quand même ce que je fais le plus.
Tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé dans les années 2000.
Oui.
À l'époque, quel était le déclic concret qui t'a fait passer de teufeur à producteur-liveur ?
Bah, ça allait très très vite. Ça allait très très vite. Ma première fête, je voulais acheter des machines et faire boum boum, quoi. Ça allait très très vite. Alors pas les platines, ça je trouvais ça cool, mais moi c'était tout de suite les machines. Et ça a pas mis longtemps. Enfin vraiment, la première rave que j'ai fait, je voulais acheter des machines le lendemain, quoi.
Et parmi ces premières machines, est-ce qu'il y avait cette fameuse Cork Electribe ?
Tout à fait. J'ai commencé sur des Electribe, ouais. La première que j'ai achetée, c'était une boîte à rythme, pour les connaisseurs, une ER1, Korg Electribe ER1, voilà.
Donc ça change de la TB303 et de la TR909 des
Rivers. Ouais, c'était plus l'époque des Electribe de toute façon, le début des années 2000, enfin j'ai l'impression du moins.
Quand tu te retournes sur ton parcours, tu vois quoi ? Est-ce que tu vois une ligne cohérente ou une succession de bifurcations et de hasards heureux ?
Non, c'est plus des bifurcations parce que la musique, j'ai pu la laisser. Enfin, j'ai pas fait de la musique à fond, en continu en fait. J'ai voyagé, j'ai fait plein de choses. Donc, il y a eu des périodes où je faisais très peu de musique pendant 1, 2, voire 3 ans. Et c'est après, quand j'ai eu l'opportunité de me professionnaliser, que là, je me suis mis à en faire vraiment tout le temps, quoi. Parce que je voulais en faire mon métier.
Et tu es intermittent du spectacle aujourd'hui ?
Tout à fait, ouais.
Eh bien, bravo, félicitations.
Merci.
Parmi toutes tes casquettes, on va revenir sur celle de co-gérant de label.
Ouais.
Okuma Records, je le dirais qu'on peut le présenter comme un label Tribe.
Ouais.
De Pumping Tribe, de Mental Techno.
Ouais.
Un label avec une identité très marquée dancefloor. Ce serait quoi pour toi la patte Okuma ?
La patte Okuma, c'est de la profondeur, des ambiances suggérées, je dirais. C'est peut-être un peu branlette de dire ça, mais enfin, c'est ce qui me vient. Ouais, c'est du son de, c'est du son psychédélique, quoi. C'est de la techno mentale avec du kick, avec une belle assise. C'est pas de la musique violente, hein. C'est clairement pas de la musique violente. C'est du son tribe, de toute façon, c'est très rythmique. Ouais, c'est du son qui a de la profondeur, quoi.
Et dans ce nom Okuma, je vois quelque chose de martial. J'ai pas pensé à regarder ce que voulait dire Okuma.
Bah alors de toute façon, la façon dont on l'a trouvé, c'est...
C'était capillotracté, comme on dit ?
J'allais dire que c'était complètement capillotracté. Donc le label, avant qu'on le fasse, c'était en 2014. Ça faisait 4-5 ans que je voulais faire un label. Parce qu'il y avait tellement un gros vivier en Franche-Comté que j'avais envie de le faire. Et on a cherché un nom pendant 3-4 ans. On n'a jamais rien trouvé. Et moi, je bossais, j'étais horloger en Suisse à l'époque. Je bossais en horlogerie. Et il y avait une grosse machine, c'était l'Okuma. Et un jour, je suis passé devant, j'ai dit, mais c'est pas mal. Et au final, je trouve que il y a un truc. Il y a un truc avec la techno, avec l'ambiance de la musique qu'on représente, qui est plutôt cohérent.
Le côté martial dont je parlais tout à l'heure correspond parfaitement.
Oui, je trouve aussi.
Comment est-ce que tu choisis les sorties chez Okuma ? Est-ce que c'est une histoire de son ? Est-ce que c'est une histoire d'amitié, de valeur ou de narration musicale ?
Eh ben, c'est quand même déjà le son. Et la narration, en fait, c'est vraiment le plus important dans cette techno-là, quoi. Dans le son tribe et dans le son mental, la narration, ça a une place super importante. C'est ce qui est au premier plan, même. Donc, moi, je produis les artistes que je découvre et que je kiffe. Et après, sur les gros disques, on aime bien mélanger des top artistes, des mecs déjà bien en place, et des tout jeunes, des artistes en développement. Ça va leur permettre, eux, de choper de la visibilité et de faire un disque qui va du coup avoir plus de visibilité du fait qu'il y a des top artistes dessus. Voilà. Mais c'est vrai que la musique prime. Après, oui, je presse des gens qui sont devenus mes potes, mais si j'aimais pas leur musique, je les presserais pas.
Logique. Okuma a maintenant plusieurs références, aussi bien en vinyle qu'en digital.
Ouais.
Est-ce que tu as le sentiment d'avoir contribué et installé une sorte d'école Besançon de la tribe ?
Ah, j'aurais pas cette prétention, mais j'espère que on est deux, hein, et puis il y a tous les artistes qu'on produit, qu'on a amené un truc, quoi. Enfin, qu'on a amené un truc, on n'a rien inventé, si tu veux, mais j'espère qu'on représente dignement le milieu duquel on vient, quoi, de son tribe, parce qu'il nous inspire depuis 20 ans, quoi.
Nouvelle pause musicale dès maintenant avec Travel Theater, un morceau évidemment signé Gré Okuma.
DJ Academy, le mag, l'interview.
On enchaîne avec la deuxième partie de l'interview de Ryokuma, réalisée le 14 mars 2026. On va parler un petit peu de cet héritage, l'héritage des Spiral Tribe. Ouais. Entre philosophie DIY, l'antisystème et la vie en marge, qu'est-ce qui te parle encore chez les Spiral Tribe? Et qu'est-ce qui, selon toi, appartient à une autre époque?
Ce qui me parle déjà, c'est leur musique. De toute façon, c'est vraiment une musique qui m'a traumatisé. Enfin, la musique d'Espy dégage quelque chose de vraiment unique, qui a été même un peu plus poussé par d'autres artistes comme FKI. FKI, pour moi, c'est vraiment c'est mon top artiste ever. Déjà leur musique et puis forcément le côté politique m'a toujours causé. Pour moi, il est toujours super d'actu, quoi. Et de surcroît avec ce qui se passe en ce moment.
Ouais. Le mouvement Free Party, entre liberté et répression, il a beaucoup évolué dans les années 90. Tu dirais qu'on en est où aujourd'hui en France et en Europe du mouvement Free Party?
Ben, au niveau de la répression, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que maintenant, ils confisquent tout, ils détruisent tout. En fait,